Et j'ai le plaisir de démarrer cette libre antenne avec l'appel de Nadia. Bonsoir Nadia.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue Nadia, bienvenue à vous.
Je suis un peu émue, le fait de parler à la radio.
Oh, vous savez, ça fait toujours ça au début, et puis très vite on oublie, et puis on est dans notre conversation toutes les deux.
Très bien. Bah, écoutez, moi je vous appelle par rapport à... En fait, j'ai trois enfants.
Oui, qui ont quel âge ?
29 ans.
Oui.
20 ans, et j'ai perdu une petite fille à l'âge de 5 ans et demi d'une tumeur au cerveau.
Ah, mon Dieu.
Donc, ça a été très difficile.
J'imagine.
Pour faire le deuil.
Oui.
Mais bon. Là, je vous appelle, c'est par rapport à mes deux, l'aîné qui a 29 ans et le plus jeune qui a 20 ans.
Mm-hmm.
Ils ne me donnent pas de nouvelles. C'est toujours moi qui vais aux nouvelles, qui les appelle. Souvent, je tombe sur la messagerie. Et ça me fait, c'est très douloureux pour moi parce que, voilà, c'est mes enfants, j'ai beaucoup d'amour pour eux. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont, ils ne veulent pas me donner des nouvelles, quoi.
Alors, racontez-moi un peu le contexte. Comment ça s'est passé déjà quand ils étaient petits, ils avaient un papa, j'imagine.
Oui, 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 tout à fait. Le papa, je ne suis plus avec, on est divorcés. Mais le divorce a eu lieu pendant qu'ils étaient jeunes.
Comment s'est passé ce divorce ? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir depuis des rancœurs ou des choses qui n'ont pas été dites ?
Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai un passé un peu dans l'addiction de l'alcool. Alors, c'est vrai que ça les a touchés.
Ah.
Mais bon, moi, je suis abstinente depuis 2 ans, donc je suis consciente qu'il faut du temps pour reconquérir leur confiance.
D'accord.
Et ça reste très douloureux pour moi, quoi, de ne pas pouvoir partager un repas avec eux, ou ne serait-ce que des nouvelles par téléphone.
Je comprends tout à fait, mais on va dérouler un petit peu l'histoire. Moi, ce que j'entends là pour l'instant, c'est que ce sont des enfants qui ont vécu 3 drames. Ils ont vécu la mort de leur petite sœur. Ils ont vécu la séparation de leurs parents et, la maladie, puisque l'alcoolisme est une maladie de leur maman.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'ils ont eu, par la force des choses, c'est la vie, c'est comme ça, ils ont eu une enfance, on va dire, un peu chaotique, un peu difficile.
Oui, 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 tout à fait.
Donc ça, c'est déjà la base qui est importante à comprendre. Quand vous buviez, ça a commencé à quel moment d'ailleurs, cette addiction-là ?
Suite au décès de la petite.
Oui, mais bien sûr. Mais
donc je me suis un petit peu réfugiée dans l'alcool.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai un peu omis leur éducation. Je comprends qu'ils puissent m'en vouloir. Mais bon, j'estime qu'à un moment, il faut savoir pardonner.
Bah, surtout que ce que vous avez vécu est probablement la pire épreuve au monde pour une maman.
Oui.
Mais est-ce qu'ils ont des enfants déjà de leur côté, le plus grand ?
Maintenant, l'aîné s'est marié sans que je sois conviée. Donc, à mon avis, quand je l'ai eu au téléphone la fois dernière, je lui ai dit est-ce qu'ils allaient faire un bébé ? Il m'a dit oui, prochainement.
Parce que quand on devient parent soi-même, on comprend peut-être mieux aussi. Peut-être
c'est ce que je me dis, oui.
Alors, racontez-moi simplement comment ça s'est passé à l'adolescence et à quel moment ils ont quitté le nid ?
En fait, ils ont quitté le nid à 20 ans. L'aîné, quand il avait 20 ans, il a fait des études pour faire clerc de notaire.
Oui.
Donc, il est parti à l'université.
Très bien. Donc, il a bien réussi quand même, malgré tout
oui,
ça,
à bosser. Il a bien réussi. Oui, oui. Il a bien réussi sa vie. Après, bon, le dilemme reste le même. Hein, il m'en veut toujours par rapport à cette addiction. Donc, je culpabilise énormément parce que je me dis, ben voilà, c'est un petit peu le prix à payer par rapport à toute cette addiction, quoi. Mais le petit, il est toujours à la maison, lui.
Ah, il vit toujours chez vous ?
Oui.
Et comment il se comporte ?
D'une façon un peu désinvolte. Il a toujours raison, il sait tout, il connaît tout.
Oui, alors en même temps, c'est un garçon, il a 20 ans, c'est ça ?
Oui, c'est l'âge. Ouais.
C'est un peu classique, c'est en dehors de tout contexte par personnel. C'est un peu l'âge. Hein.
Et c'est un peu cruel quand même, hein, comme comportement.
Ah, c'est pas toujours facile, mais ça l'est d'autant plus cruel pour vous, parce qu'effectivement, il y a une grande fragilité derrière tout ce vécu et toutes ces souffrances.
Ben oui.
Donc, le petit, vous avez de fait, vous avez forcément de ses nouvelles, puisqu'il est sous votre toit.
Oui, 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 mais bon, il fait un petit peu sa vie, quoi. Il rentre quand il veut, il sort quand il veut. Il fait pas très attention à moi, quoi.
Bon, à 20 ans, à 20 ans, c'est normal, si c'est dans le respect, quand même, si c'est pas insultant.
Non, il reste respectueux, quand même.
Ça, c'est important.
Mais bon.
Donc, le souci, c'est avec l'aîné qui ne souhaite... Comment ça se passe? Il ne souhaite pas avoir de contact ou il est désagréable quand il y en a?
Non, quand il y en a, ça se passe bien, mais c'est toujours moi qui vais aux nouvelles, quoi. Jamais il va m'appeler, ça peut prendre un mois, deux mois. C'est toujours moi qui fais l'effort de l'appeler pour avoir de ses nouvelles.
Vous avez tenté de rester combien de temps sans l'appeler pour voir?
Ben, j'ai essayé un mois, mais je craque et je rappelle.
D'accord. Et quand vous l'appelez, est-ce que vous lui faites le reproche de ça? Ou vous faites comme si de rien
non,
n'était?
Non, je fais comme si de rien n'était. Je prends de ses nouvelles. Je m'intéresse à ce qu'il fait, ce qu'il devient. Mais je pose jamais la problématique. Pourquoi il m'en veut? Pourquoi il ne m'appelle pas?
Alors, vous ne croyez pas que ce serait bien de crever l'abcès, non pas au téléphone, mais autour d'un café ou d'un déjeuner?
Mais encore faut-il qu'il veuille bien venir me voir. C'est ça le problème.
Est-ce que vous lui avez demandé?
Alors, il m'a dit qu'éventuellement, il pourrait me présenter sa femme. Donc, ça serait une opportunité pour le pouvoir le voir.
Alors, attention, oui, mais la discussion, elle est entre lui et vous, pas devant sa femme. C'est très intime ce que vous avez à lui dire.
Oui, oui.
Je pense qu'il est important qu'il comprenne, qu'il entende, parce qu'il est en train de devenir vraiment un homme. Maintenant, il sort vraiment de la période post-ado. C'est un jeune homme, peut-être un futur papa bientôt. Et c'est important qu'il comprenne que vous êtes consciente de ce qui s'est passé, que vous êtes consciente et que vous vous sentez coupable parce que vous l'avez peut-être délaissé à cause de l'alcool, mais que lui comprenne aussi que l'épreuve que vous avez surmontée, elle est épouvantablement douloureuse. Alors, c'est même pas difficile, il n'y a pas de mots pour parler de la mort d'un enfant.
C'est, je crois, le summum de la souffrance.
Je le pense aussi, oui, vraiment. Mais je pense que des mots doivent être posés là-dessus entre vous deux. Il faut crever l'abcès.
Oui, il faudrait que j'arrive à lui parler de ça.
Je pense vraiment que ce serait important. Parce que malheureusement, quand on est jeune, quand on est enfant et ado, on est naturellement égoïste. Et c'est normal, je dirais, d'en vouloir à son père ou sa mère de boire, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire pour analyser ce qui se passe. Tout ce qu'on voit sont les conséquences. Et les conséquences, c'est vrai qu'elles ne sont pas sympas quand on a une maman qui boit. Seulement, quand on comprend les causes, on peut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, si je puis dire, justement.
Voilà, voilà. Essayer de comprendre et de pardonner, quoi.
Et surtout
parce que j'ai jamais été, même en étant dans cette addiction, j'ai toujours essayé d'assumer mes responsabilités. Je me suis toujours occupée d'eux. Laissé aller.
Vous avez fait de votre mieux. Et surtout, ce que j'entends, c'est que depuis 2 ans, maintenant, vous avez réussi à surmonter ça.
Tout à fait, complètement.
Donc ça,
je suis abstinente et je m'en porte bien, quoi. J'ai retrouvé un petit peu ma santé, mes perspectives d'avenir.
Et pardon de vous poser cette question qui est peut-être encore douloureuse, mais est-ce que le deuil de cette petite fille est fait maintenant?
Il est fait, mais ça reste quand même un souvenir assez difficile.
Évidemment.
Mais le deuil, ça m'a pris 10 ans. Ouais. J'ai fait une
thérapie.
Une thérapie avec une psychologue, ouais. Dont il a fallu 10 ans parce que c'est vraiment très difficile. Vous devez le savoir, Sabine, mieux que personne.
Bien sûr.
Que c'est quelque chose de très très difficile.
Mais en même temps, j'entends quand vous en parlez qu'effectivement le deuil est fait. Évidemment, le deuil n'est pas un oubli, c'est une cicatrisation.
Voilà.
La blessure est toujours là, mais elle fait moins mal. Mais bien sûr qu'elle est là,
voilà.
La blessure.
Oui. Mais elle est omniprésente, quoi. Elle est toujours dans mon cœur.
Ben elle le sera toute votre vie, bien évidemment.
Ouais. Ouais.
Et puis, elle est probablement en train de veiller sur vous de quelque part.
Hein. Oui, c'est ce que je me dis, oui.
Donc ça, c'est une bonne chose, parce que si vous êtes à jour avec ça, vos garçons vont l'être plus facilement aussi.
C'est ce que je me dis.
Parce
alors,
que
il faut peut-être leur laisser le temps.
Est-ce que eux ont pu aller voir une thérapeute quand leur petite sœur est morte?
Non, alors eux, ils ne veulent pas entendre parler de psychologue.
D'accord.
Pour eux, c'est le papa qui a inculqué un petit peu cette idée-là, que les psychologues, c'était fait pour les gens qui étaient fous.
Pour les faibles et les fous, oui, bien sûr.
Voilà, oui. C'est une étiquette.
Une belle caricature, ça, oui.
Tout à fait. Alors que moi, ça m'a beaucoup aidée, c'est ce qui m'a sauvée, quoi. Si je n'avais pas eu cette psychothérapie, je ne sais pas ce que je serais devenue.
Bien sûr, bien sûr.
Ça m'a énormément aidée. Pour cicatriser un petit peu cette douleur.
Il y a Théodora qui envoie un message et j'allais y venir justement. Elle nous dit « Nadia est courageuse d'avoir arrêté son addiction à l'alcool, bravo à elle. Elle pourrait écrire son parcours, c'est pas bête ça, vous pourriez écrire votre histoire. »
Je suis un petit peu dans l'écriture.
Ah bah vous voyez.
J'ai pas, voilà, mais c'est plus pour moi, quoi. C'est plus une espèce de, pour exorciser un petit peu mes émotions.
Oui, mais ça peut être pour vous et peut-être un jour pour vos fils.
Oui, pourquoi
pour,
pas.
Pour qu'ils comprennent aussi.
Bah, en tout cas, merci pour le message.
C'est Théodora qui a signé ce message-là.
Je la remercie.
Et j'étais en train de penser à vos fils. Évidemment, pour eux aussi, ça a été une souffrance, forcément.
Oui.
C'est une souffrance différente.
Mais j'en suis consciente. Hein.
Et eux, je pense qu'ils ont plutôt été dans le déni, j'ai l'impression, de tout ça.
Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Ils n'ont pas voulu voir les choses un petit peu en face. Donc voilà, un total déni.
Bon, après, c'est leur responsabilité aussi. On ne peut pas obliger des gens à se soigner ou à se faire une thérapie s'ils ne le souhaitent pas.
Bah, oui.
Mais ce qui me paraît intéressant, c'est leur expliquer votre parcours à vous, que vous êtes très consciente que vous avez coulé à ce moment-là parce que vous avez vécu l'une des épreuves les plus épouvantables au monde. Mais que, voilà, vous pouvez éventuellement, si vous en ressentez le besoin, leur demander pardon pour les conséquences qu'il y a eu à l'époque pour eux. Mais que depuis, vous avez drôlement bien remonté la pente aussi.
Oui, oui, puis je suis une autre personne, quoi. J'ai envie de partager des choses avec eux, de me sentir maman, quoi. Parce que là...
Oui, c'est ça. Et peut-être, j'espère, grand-maman très présente aussi.
Oui.
Ce serait du bonheur, ça.
Oui.
J'ai comme
un grand moment de bonheur.
En vous écoutant, Nadia, j'ai comme l'image d'une sorte de communication interrompue avec vos garçons, mais qui n'est pas terminée, loin de là. C'est comme un fil qui s'est cassé,
mais qu'on
peut réparer pour continuer l'histoire.
Mais j'espère de tout cœur, Sabine.
J'en suis persuadée parce que vous avez déjà fait le plus dur.
Oui.
Et vraiment bravo pour ça, parce que remonter de ça. Et est-ce qu'il y a quand même des amis proches qui vous soutiennent, des épaules sur lesquelles vous pouvez vous appuyer?
J'ai deux amis, en fait, c'est des amis de 30 ans.
Ah, ça,
il y en a une
bien.
Qui est journaliste à Libération, Blandine. Et Marie-Ange, qui est dans l'audiovisuel, c'est vraiment des gens sur qui je peux compter, qui sont toujours présents, même si on ne se voit pas régulièrement, parce que bien sûr, elles ont leur vie, elles aussi, avec leurs enfants. Mais je sais que c'est des personnes sur qui je peux compter. Elles ont toujours été là dans les moments les plus cruciaux.
Ça, c'est important.
Par rapport à Blandine, pour le décès de Rita, c'était le prénom de ma petite fille.
Mm-hmm.
Elle a fait un dernier IRM au mois de septembre. Et là, alors, c'est vrai que les médecins font des colloques, de la recherche, mais au niveau relationnel, ils ont beaucoup à apprendre. Ils m'ont annoncé de but en blanc qu'elle allait décéder d'ici Noël.
Oui.
Par rapport à l'IRM de septembre. Alors, sur le coup, ça a été de la colère. Je me suis dit, mais de quel droit? C'est pas le bon Dieu, ils peuvent pas décider d'une date de décès. Et avec du recul, c'est exactement ce qui s'est passé.
Oui, mais il y a une façon d'annoncer les choses à une maman, quoi.
Non, mais elle m'a annoncé ça de but en blanc, comme ça. Ça a été affreux.
Ouais.
Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Elle a fait un coma le 18 décembre. Et elle est morte 3 jours après. Et pendant ce temps-là, il y avait Blandine qui était avec moi à son chevet. On se relayait, elle veillait sur elle pendant que moi je dormais un petit peu, enfin façon de parler. Dormir, c'était plutôt se reposer.
Reprendre des forces.
Et après, c'était l'inverse. Donc elle m'a accompagnée jusqu'au dernier souffle. Elle a été là. Donc voilà, on a partagé un moment qui nous unit pour la vie, quoi.
Oh, ça c'est sûr.
Elle est vraiment, c'est quelqu'un de très très bien, de très à l'écoute, d'une qualité de cœur incroyable. Donc j'ai ces deux amis sur qui je peux compter.
Ça c'est essentiel. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité.
Voilà, exactement. Ça sert à rien d'en avoir plusieurs.
Et est-ce que vous avez pris le temps de dire au revoir à votre petite fille? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Alors ça aussi, c'est extrêmement important.
Oui, j'ai pris le temps, voilà, ça a été...
Pour l'âme de l'une et de l'autre, c'est extrêmement important ce temps-là.
Oui, il y a eu ce moment privilégié où j'ai pu lui dire au revoir. Même si elle ne m'entendait pas, ce n'était pas grave. Et puis quand elle est décédée, on me l'a mis dans mes bras.
Mmh.
Et j'ai pu lui parler même si elle n'était plus là, quoi.
Oui, c'est extrêmement important comme moment. C'est C'est le début d'autre chose qui commence à ce moment-là.
Ouais,
en tout cas, quel chemin vous avez parcouru? Je ne vous ai pas demandé votre âge.
J'ai 57 ans.
57 ans, d'accord. D'accord. Mais je suis persuadée que si... Alors, le garçon de 20 ans m'inquiète moins, parce que je pense qu'il nous fait sa crise d'adolescent, là, tranquille.
Oui, oui, oui. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour lui, c'est surtout l'aîné, quoi.
Et en même temps, l'aîné, malgré tout ça, vous avez fait un bon boulot, parce que, vous voyez, il bosse bien, il a fait des études, il a un bon boulot.
Oui.
Le navire n'a pas coulé, hein, quand même.
Ben, il a son caractère, il a sa personnalité, il ne s'arrête pas au détail, quoi. Pour lui... tout ça, c'est, ce qui compte, c'est son avenir à lui, ses perspectives d'avenir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, vous avez quand même maintenu le navire à flot. Hein.
Oui.
Malgré l'alcool, oui, malgré la douleur, vous avez quand même réussi à en faire quelqu'un de bien.
Oui.
Et oui. Mais je pense qu'il est urgent de percer l'abcès avec lui. Avec des mots les plus simples du monde, avec les mots du cœur, sans culpabiliser qui que ce soit. Juste en lui disant, d'ailleurs, un résumé de ce que vous m'avez dit ce soir, que vous avez tout à fait conscience que ça, que cette addiction lui a probablement pourri la vie.
Ça peut les perturber, oui.
Ben, pour lui, c'est certain, mais qu'il faut qu'il comprenne aussi l'épreuve que vous avez surmontée. Hein.
Oui, parce que ça a été très difficile quand même. Je n'ai pas été enfin, je ne me suis pas mis dans l'alcool comme ça, quoi. C'est par rapport à cette souffrance.
Ben, j'imagine bien que ce n'est pas pour le plaisir.
Non, du tout. Et voilà, donc maintenant je suis contente, je m'en suis sortie. Je suis vraiment contente de moi, quoi.
Comment vous avez fait d'ailleurs, vous ne m'avez pas raconté pour...
Ben, j'ai fait une cure dans une structure, après une espèce de post-cure qui a duré 6 mois, où voilà, on a travaillé sur ma problématique. Avec des psychologues, des psychiatres.
Oui, donc vous avez vraiment fait les choses bien. Quoi.
Voilà, on a travaillé profondément cette addiction. Et après, je suis rentrée à la maison et j'ai continué à avoir un suivi avec ma psychologue.
D'accord.
Parce que c'est pas le fait de faire une cure, c'est bien, mais c'est pas le tout, quoi. Après, il y a une continuité fois qu'on est sorti pour ne pas faiblir et replonger. Donc j'ai tenu le coup et je suis contente parce que après je comptais les jours, après les semaines, après les mois, et après je comptais plus. C'était devenu naturel, quoi.
Vous êtes redevenue vous-même.
Voilà, j'ai retrouvé ma personnalité,
votre
quoi,
identité,
ce que je suis, mon identité, ouais. Parce que j'étais pas moi-même hein, quand je buvais.
Bah, évidemment non, c'est une façon d'essayer de noyer sa douleur.
Voilà. Mais bon, elle était encore plus difficile parce que je me mettais à pleurer. J'appelais mes amis en pleurs en disant voilà, je suis pas bien.
Non,
ça fait partie du passé.
Voilà, ça n'était pas une solution, c'est celle que vous avez trouvée à l'époque. Voilà, bon, c'est
à ce moment-là, oui.
C'est fini maintenant, il ne faut pas vous en vouloir pour ça, mais je pense que vraiment, il faut en parler très clairement avec votre fils aîné. Et, et probablement avec l'autre aussi, d'ailleurs, une autre fois, dans un tête-à-tête. Oui. Un jour, vous le sentez plus réceptif.
Oui.
Lui ouvrir votre cœur et lui dire aussi tout ça, ça me paraît vraiment important.
D'accord.
Ils vont grandir aussi. Et puis, en plus, quand ils vont devenir eux-mêmes parents, ils vont comprendre beaucoup de choses.
Oui, c'est ce que je me dis. Quand il sera papa, il prendra conscience un petit peu de ce que c'est que d'avoir un enfant.
Et des inquiétudes que ça peut générer.
Oui.
Et peut-être prendra-t-il conscience de la gravité de ce qui s'est passé vraiment pour vous, quoi.
Oui, ben j'espère.
De cette souffrance-là.
Parce que c'est une souffrance aussi de ne pas avoir de lien... Et trois avec eux. Enfin, surtout l'aîné, encore le petit, ça va.
Et je vous dis, il va revenir ce lien, j'en suis persuadée.
J'espère.
C'est quelque chose que je vois comme un pointillé, mais qui va se reconstruire là, qui va se rétablir petit à petit, avec des mots. Juste avec des mots du cœur.
Juste ça, oui. Hein.
Et je suis sûre que vous allez les trouver, ces mots-là, Nadia, vous êtes forte.
Oui, je compte bien. J'espère de tout cœur.
Ben, je vous le souhaite aussi de tout cœur.
Merci, je vous remercie Sabine.
Et si, écoute. Si vous le permettez, j'envoie une belle pensée lumineuse à Rita aussi.
Merci beaucoup. Merci infiniment.
Je vous embrasse Nadia.
Au revoir Sabine.